eut lieu le 1er août. Il mit en cause un âne, qui n'avait jusqu'ici jamais fait parler de lui, et fit ce matin-là irruption au galop dans un camping naturiste, avec la sombre détermination d'un coureur d'amok. Réveillés par ces braiements démentiels, les résidents commencèrent par le filmer avec leur smartphone tandis qu'ils lançaient des ruades désespérées dans le vide, mais renoncèrent bien vite à documenter l'événement quand ils comprirent que leur seule option de salut résidait dans la fuite. L'âne, la gueule grande ouverte sur ses longues dents jaunâtres, choisit une première cible qu'il mordit cruellement avant de diriger sa rage vers d'autres victimes innocentes. Bientôt ses grosses babines noires hérissées de poils soyeux devinrent luisantes de sang. Quoique la presse et les autorités eussent pris soin de ne divulguer aucun détail horrible, on racontait partout que quelques minutes seulement avaient suffi à l'âne pour arracher des parties de muscles fessiers, un morceau de joue, un biceps entier, divers mamelons, un médius, deux auriculaires et une demi-douzaine de pouces. Certains prétendaient même savoir de sources sûres qu'il avait également eu le temps de causer plusieurs castrations partielles avant que le propriétaire du camping parvint à l'abattre à coups de chevrotine. Dans les affres de l'agonie, raconte-t-on encore, l'équin démoniaque claquait encore des mâchoires. Personne ne s'expliquait à un tel déferlement de calamité. Ayant remarqué que la popularité de l'âne dépassait celle du porc au point que ses yeux tristes et ses longues oreilles ornaient t-shirts, serviettes de plage et mugs, et qu'il était donc l'un des animaux les plus photographiés de la région en période estivale, quelqu'un émit l'hypothèse d'une révolte sanglante du monde animal contre la société de l'image. Mais comment expliquer alors la folie du taureau dont personne, du moins sous ses latitudes, n'avait jamais songé à tirer le portrait? D'autant que la rumeur faisait état d'autres attaques encore plus terribles, sur lesquelles la presse, avec la complicité de la gendarmerie et des plus hauts services de l'État, gardait le silence pour ne pas provoquer de panique. Attaques causées par des animaux fort mal placés dans le palmarès du bestiaire touristique. Après le taureau meurtrier, les cochons carnivores et l'âne anthropophage, on évoquait ainsi un renard grignoteur qui aurait vicieusement mâchouillé dans les gîtes d'étape les orteils de randonneurs déjà épuisés par les attaques vampiriques des punaises de lit. Des scorpions agressifs qui, dissimulés dans l'obscurité humide des salles de bain, piquaient les imprudents sans qu'il fût besoin de leur marcher dessus ou se cachaient sciemment sous l'abattement des toilettes. Des boucs et des mouflons kamikazes et même une redoutable mouette énucléeuse semant la terreur sur des plages où pendant plusieurs jours personne n'osa plus retirer, fût-ce pour un instant, ses lunettes de soleil. En l'absence d'une explication satisfaisante, il est plus raisonnable de penser que le responsable de cette tragédie fut le très puissant djinn. La psychologie des djinns demeure en grande partie mystérieuse. On sait qu'ils peuvent vivre dans les déserts, les forêts ou les abysses marins, loin des humains ou parmi eux, quoique nul ne puisse les voir ou encore, comme le très puissant djinn, partout à la fois. On sait que certains ont renié Dieu et que d'autres l'adorent sous tous les noms que peut prendre le Seigneur des mondes. On sait que leurs passions sont plus fortes et plus dévastatrices que les nôtres, que leur amour est aussi redoutable que leur haine et qu'ils n'y renoncent jamais. On sait qu'ils sont généralement indifférents aux souffrances des mortels, cette énigme qu'ils ne comprennent ni ne cherchent à comprendre. Et qu'ils sont pourtant prêts à déployer tout leur pouvoir pour protéger ceux qui ont leur faveur. N'est-il donc pas raisonnable de penser que cet été-là, le très puissant djinn descendit comme un ouragan depuis la montagne jusqu'aux plaines, enfonçant ses doigts dans les yeux des animaux sauvages et des bestiaux, leur accordant, ce que Dieu avait formellement interdit, le privilège insoutenable de la lucidité auquel ils ne pouvaient échapper qu'en détruisant d'abord tout ce qui les entourait jusqu'à entraîner pour finir leur propre destruction. Les djinns, on le sait aussi, ne se signalent pas particulièrement par leur disposition à l'empathie, et peu importait aux très puissants djinns la douleur des hommes et des bêtes tant qu'ils pouvaient espérer créer un chaos tel que Shirin, de l'autre côté de la mer, en recevrait les échos à temps pour renoncer à son voyage. Il ignorait bien sûr que les lois mystérieuses de diffusion de l'information gardent certaines nouvelles, si horribles fussent-elles, prisonnières des pages de faits divers locaux, et les empêchent de traverser